Transport en commun ou actif, vous réduirez ainsi vos irritants. Votre collaboration est essentielle dans l'amélioration de notre ville.
Pour votre entreprise, choisir l'équipe de TML Informatique, c'est savoir s'entourer d'experts pour être bien conseillé. C'est aussi une offre complète de services en cybersécurité pour vous assurer une tranquillité d'esprit pour que vous puissiez vous concentrer sur vos activités professionnelles. TMLinformatique.com, revendeur certifié des produits Lenovo.
Boulevard 102, la radio de Québec pertinente.
Écoutez ce qui se passe et ce qui se brasse dans l'actualité. Pendant ce temps-là, je vais aller voir ce qui se brasse sur Pornhub. Oh, il s'en brasse, des affaires!
Qui vous rapporte la nouvelle de façon objective.
La preuve irrévocable de l'existence du loup-garou en audio.
Et si tu crois que
invités percutants.
Ben oui, petit coup de c'est important. Oh, oui. Commence le martel. J'aurais peut-être un manager.
Une radio intellectuelle.
Moi, je suis scorpion.
Je suis capricorne.
Capricorne.
Je suis vierge.
Ça, on savait.
Facile.
une radio spéciale. Boulevard 102. La radio spéciale.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102 à Québec. Un bon vendredi nuageux, mais qui fait en sorte que la température a peut-être un peu baissé. Donc, en espérant que vous ayez passé une belle journée, on va certainement passer une belle soirée. Puis, savez-vous quoi, si on se laisse d'ici les prochaines minutes, eh bien, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. Du moins, je me la souhaite à moi, bien entendu. Belle fin de semaine où le hockey recommence. Hein? Je ne sais pas si vous autres, là, à Québec, le hockey a recommencé, mais en Beauce, ça recommence ce week-end au Centre Castel à Sainte-Marie. Puis j'ai bien hâte de voir mes gars évoluer sur la patinoire, voir s'ils en ont pris ou s'ils en ont perdu comme leur père. Mon invité de ce soir, Jean Nadeau, conférencier vedette de Marceau Soir. Je ne pense pas en avoir reçu beaucoup. Puis à chacun de tes passages, Jean, puis d'ailleurs, tu me disais que la semaine dernière, quelqu'un qui t'a écrit faisait « Je t'ai entendu sur les ondes de Boulevard ». Chacun de tes passages, on a beaucoup de feedback. C'est le fun. Merci beaucoup de te présenter puis de venir nous jaser sur les ondes de Boulevard. Pour les gens qui ne connaissent pas Jean Nadeau, le conférencier, ça sort d'où, ce gars-là?
Ça sort tout. En fait, quand on me pose la question sur moi personnellement, je trouve ça plate à jaser. Jaser de moi personnellement, ça, mm-hmm. Je pense pas que ça intéresse bien le monde. Au niveau conférencier, ce que je me plais à dire, c'est les gens me demandent « qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Habituellement, les gens répondent à ça « je suis conférencier, je suis auteur, je suis coach ». Ça, c'est notre titre, ça. Ouais. Moi, ce que je fais dans la vie, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables. À un point tel qu'ils vont peut-être finalement prendre la décision de prendre la responsabilité des actions qu'ils savent qu'ils doivent prendre pour passer d'où ils sont à où ils veulent être dans leur vie. Inconfortable à un point, tu sais, quand tu as quelque chose qui te rend inconfortable dans ta vie, puis que ça te fait tourner en rond jusqu'à 3h30 du matin dans ton lit, là, mm-hmm. C'est là que j'arrive. Puis je viens te mettre ça dans la face là, de façon à ce que tu y réfléchisses maintenant, puis que peut-être tu trouves une source d'action dans cet inconfort-là qui va te faire bouger puis qui va te faire passer à d'autres choses, au lieu de te rendre jusqu'à la limite de l'inconfort puis de dire « Christy, j'aurais donc dû.
Ouais. » Ton concept, tu l'as trouvé à quel endroit? Comment t'as peaufiné ce concept-là, c'est-à-dire de rendre un peu inconfortable les gens pour que les gens puissent se questionner? Ça vient d'où, ça? Ouais, parce que la plupart des conférenciers me disent souvent ce que je veux entendre.
Exactement. Ben, en fait, la réponse courte, où je l'ai trouvé, c'est dans mon miroir. Mais la réponse plus longue, c'est que quand j'ai commencé ma carrière de conférencier, j'étais pas mal comme tous les autres conférenciers, avec mes beaux petits souliers bien cirés, mon habit bien pressé, mon sourire permanent. Les conférenciers ont toujours un beau sourire d'en face, tout le temps. Mes cheveux gris, grand sage, puis je montais sur scène et j'étais un imitateur de tous les autres. Jusqu'au jour où mon meilleur chum, Marc, qui avait assisté à ma conférence pour la toute première fois, il est venu me voir après, puis il me dit « Jean, il dit, c'est de la merde. »
Ton meilleur chum.
Mon meilleur chum. C'est OK, qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, il m'a vraiment mis ça dans la face.
Tu bullshit.
Tu bullshit. Moi, je m'attendais à voir le fond de Jean Nadeau, les réflexions de Jean Nadeau. Tu répètes la même affaire que tout le monde. OK, à ta façon, mais il n'y a rien de contenu là-dedans. Puis ce que tous les autres nous disent, c'est ce qu'on veut entendre. Fait que ce que j'ai entendu ce soir, c'est ce que les gens voulaient entendre. C'est pour ceux qui sont tous levés à la fin et t'ont applaudi. Il n'y a pas personne qui est sorti d'ici à soir avec des points d'interrogation dans le cerveau, dans la tête, à dire « Tabarcelac, ça m'énerve ce qu'il me dit. Je vais aller réfléchir à ça. » Non, non, ils n'ont rien à aller réfléchir. Tu leur as dit ce qu'ils voulaient entendre.
Ouais.
Fait que j'ai arrêté pendant 6 mois. 6 mois complètement d'arrêt au niveau professionnel. J'ai cancellé des contrats. Puis là, je me suis dit « OK, mais si tu veux continuer à faire des conférences, puis que tu réalises par le coup de pied au derrière que tu as reçu de ton meilleur chum, qu'il y a raison, puis que tu es juste un imitateur, tu vas faire quoi? » Fait que je me suis mis à penser à ça. Puis à un moment donné, j'ai trouvé, comme je te dis, de façon figurée et pour de vrai aussi, j'ai trouvé la réponse dans mon miroir en me disant, toi, là, tu sais, tu veux parler au monde, passer des opinions, faire réfléchir les gens pour qu'ils se bougent derrière puis qu'ils sortent de... Ah ben, mince, qu'ils sortent de leur inconfort.
Mm-hmm.
Toi, Jean Nadeau, qu'est-ce qui t'a sorti de ton inconfort? Ben, crif, ça t'a fait donner des coups de pied dans le cul puis en régissant. J'ai dit, OK, voici mon approche. Moi, ouais. Ça va être ça. Au lieu d'être justement comme 99,9% des conférenciers qui dressent un beau tableau avec un beau lac, des nuages, des petits minous qui se promènent partout, des petites fleurs puis de la musique de Yanni, à faire rêver le monde au bonheur, toi, tu vas leur mettre la merde d'en face. Tu vas leur mettre le mur dans lequel ils sont en train de s'en aller, là. Ce qui les garde réveillés jusqu'à 3h30 du matin, là, c'est ça que tu vas leur mettre d'en face. Parce que j'ai réalisé que les gens travaillent beaucoup plus fort à s'éloigner du mal, à se sortir de la merde, que de travailler sur leur bonheur. Ça, ça viendra peut-être à un moment donné.
Ouais.
Fait que c'est ce que je fais. Je leur apporte ça en pleine face. Ouais. Ils n'aiment pas ça. Là. C'est pas une approche qui est belle fun. Souvent, à la fin de mes conférences, les gens sortent et ils disent « Ils m'énervent ». Mais ils vont y réfléchir.
Ouais. J'aime beaucoup ton approche parce que ça va en lien avec ce que moi je pense, c'est-à-dire qu'on apprend dans la douleur. Mm-hmm. Quand on manque de quelque chose, c'est là où on essaie, tu sais, on comprend ce qu'on est en train de vivre là.
Exact.
C'est là où on se dit, t'as peur, faut que je me prenne en main là. Puis c'est là où on commence à travailler, tu sais, que ce soit exemple, quelqu'un qui manque d'argent, ben il va falloir qu'il atteigne le bas fond pour qu'à un moment donné, puis moi, je suis peut-être un peu comme ça, je vais te l'avouer. Là. Faut que j'atteigne le bas fond pour me dire non, c'est pas vrai que je vais tolérer ça. Là. Je ne suis plus capable de descendre. Je ne peux pas descendre plus
c'est
bas.
Assez.
Je veux remonter. Puis c'est là où moi j'apprends. C'est là où moi les choses rentrent plus facilement parce que je trouve qu'il y a quelque chose à aller chercher. J'ai comme un intérêt à justement me sortir de la merde dans laquelle je m'étais engouffré. Puis, tu sais, moi, c'était au cégep. J'étais encore jeune, tu sais, mais j'avais pas une maudite scène. Mm-hmm. Puis je me suis dit, OK, là, visiblement, je suis pas un jeune qui est un. Je suis pas un très grand travaillant. J'ai pas une scène. De la misère à payer ma chambre. J'étais à côté du cégep. De Limoilou, là. J'ai de la misère à payer ma chambre. Fait que faut que je travaille plus fort. Puis du jour au lendemain, j'ai trouvé une raison de travailler plus fort. Parce que je voulais plus me poser les questions à savoir qu'est-ce que j'allais manger demain matin parce que je me couchais le soir le ventre vide. Puis le lendemain matin, je voulais pas aller voir ma mère pour dire, man, je peux-tu avoir ci, je peux-tu avoir ça. On dirait que moi, ça a été ce déclic-là. C'est-à-dire de manquer de tout puis de dire, OK, là, c'est fini. C'est jamais arrivé dans mes relations amoureuses. Là. J'ai jamais laissé ça au point où c'était épouvantable la relation, mais tu prends des décisions quand ça va plus bien dans ton couple, quand c'est extrêmement négatif, puis tu vois plus d'avenir pour ce couple-là, puis là tu deviens créatif. OK, ouais, peut-être que ça va me coûter un petit peu plus cher à m'horloger, mais je pourrais peut-être faire telle affaire. C'est dans la douleur que tu apprends.
Ouais. La très grande majorité des patoffes le clown dans mon industrie du développement personnel montent sur des scènes pour parler de l'attitude positive. N'allez pas croire que je suis contre l'attitude positive. Moi, je suis un jouisseur incroyable de la vie. Je suis un épicurien. Je suis le king des épicuriens. Fait que j'aime avoir une bonne attitude. J'ai habituellement une bonne attitude. Des fois, ça n'est pas une bonne, mais l'attitude positive, OK. Mais de tout rabattre, tu sais, ayez une bonne attitude. Quand l'attitude va, tout va. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est quand ça va pas que tu fais quelque chose.
Ouais.
Tu sais, moi, je dis souvent... vous voulez vraiment changer quelque chose, l'attitude positive, ça a-tu marché à date? Non, t'es encore gros, t'es encore cassé, t'es encore... OK, essaye donc l'attitude négative, voir. Puis c'est d'avoir de passer à travers l'attitude négative, c'est pas de se flageller puis de se culpabiliser puis tout ça, mais c'est juste de voir la réalité en face. Une attitude négative envers quelque chose qu'on veut changer va très souvent nous donner des résultats positifs, bien plus que de surfer sur l'attitude positive puis penser que, à un moment donné, ça va se régler par soi-même. Non, non, ça part de nous autres.
Oui. Puis, tu sais, j'essaie de, le plus possible d'avoir cette attitude positive-là quand je me lève le matin en me disant, tu sais, je vais faire ça, je vais avoir une belle journée, tout ça. Puis peut-être que moi, ça m'aide ou ça m'aide pas, mais j'ai l'impression que ça m'aide. Le soir, avant de me coucher, tu sais, je me dis tout le temps, qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Mm-hmm. Qu'est-ce que j'aimerais travailler le lendemain? Puis je remercie. Je ne suis pas trop qui, moi, je ne suis pas très croyant, ouais. Là, mais je te l'ai déjà dit d'ailleurs.
Je dis merci.
Je remercie beaucoup de que mes enfants soient en santé. Ouais. Merci beaucoup. Tu sais, puis pourtant, je crois. Pas l'impression qu'il y a grand chose qui m'écoute, là, mm-hmm. honnêtement. Mais je dis merci. Ça s'appelle de la gratitude, ouais, je pense. Okay. Ouais. Dans le vocabulaire, là, c'est de la gratitude. Ouais. Fait que j'ai ça, mais je suis foncièrement convaincu que ta technique, bien qu'elle peut être un peu particulière pour des individus qui n'ont jamais vu ça venir, c'est-à-dire que le conférencier qui ont payé pour aller voir, ben, il se donne un mandat d'ébrasser un peu mm-hmm. parce qu'il est tanné de la bullshit des autres conférenciers qui. Ils vont t'aider pendant une semaine, deux semaines dans ta tête, trois semaines, mais tu n'auras pas avancé, tu n'auras pas progressé, tu n'auras pas réfléchi nécessairement à tout ce qui chiait dans ta vie avant de te présenter là.
Exact. De façon figurée, dans ma conférence, quand j'arrive sur la je parle de l'attitude, justement, et j'ai remis une ballonne rose à toutes les personnes qui sont dans la salle. Fait qu'imagine, je vais donner l'exemple le plus flagrant, j'étais à Albuquerque, au Nouveau-Mexique,
oui.
2500 personnes. Conférence d'ouverture d'un congrès international, 2500 personnes qui se sont faites donner une ballonne rose avant de rentrer. Là. Ils savent pas pourquoi, eux autres. Hein? Fait que là, je rentre. Là, bon, tout ça est en anglais, mais je la fais aussi avec 50 personnes en français. Et j'invite les gens à... J'ai dit aux gens, levez la main, celles et ceux qui ont déjà assisté à des conférences de positivisme, puis de bonne attitude, puis de motivation. Là, la majorité des gens lèvent la main. Ceux qui n'ont pas levé la main, je dis, vous autres, là, vous allez vivre... ce que les autres ont déjà vécu, puis ceux qui l'avaient déjà vécu, vous allez le revivre. Vous avez chacun une ballonne rose, soufflez-moi ça. Soufflez-la, faites pas de nœud dedans, faites-moi une belle grosse ballonne rose, soufflez dedans, faites pas de nœud dedans, puis pincez-la pour pas que l'air sorte. Puis là, je fais toujours la petite joke pendant qu'ils sont en train de souffler. Ça devrait bien aller, je les ai toutes soufflées au moins une fois avant que vous la souffliez. Puis là, les filles font « Oh! » Les gars font « Ah! » Fait que là, écoute, là, imagine, là, puis là, je leur dis « Levez ça le plus haut possible au bout ouais. de vos bras, là. T'as 2500 ballons dans les airs, là, à bout de bras. Puis j'ai dit, à go, vous les laissez aller. Paf, ça part. Tu comprends ce que les 2500 ballons, ça part de tout le ouais. monde. La foire est pognée là-dedans. Tout le monde se met à rire. Là, je garde le silence pendant à peu près 15-20 secondes sur scène. Puis moi, j'en avais une aussi. Fait que elle est tombée pas loin de moi. Puis je la regarde. Puis à l'écran, il y a une photo d'une ballonne dégonflée. Puis là, j'ai dit, essayez de retrouver. Regardez les ballons au sol. Ils ont l'air de quoi? Bien, ça, là, c'est ce que vous allez avoir l'air demain matin. Parce qu'une conférence de motivation, c'est cute, c'est le fun. C'est le fun, j'en ai vu des conférences, puis je trouvais ça original, c'était un bon show.
Ouais.
Mais what's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? Demain matin, je retombe dans ma to-do list, puis je continue. Par contre, si tu es venu à la conférence de Nado, puis que tu as un problème de poids, puis que Nado, dans sa conférence, il a dit que tu étais gros par choix, en s'expliquant, évidemment, je ne peux pas juste dire ça, je vais avoir l'air d'une grosse brute innocente, là, mais je l'explique pourquoi je dis que les gens, majoritairement, il y en a qui ont des problèmes de santé, ça fait en sorte qu'ils ont un problème de surpoids, puis c'est pas de leur faute, et c'est génétique. Mais les 80% qui restent, eux autres, c'est de leur faute. Eux autres qui mettent de la marde dans le panier d'épicerie puis qui passent 30 heures par semaine assis là dans leur divan à écouter la TV ou d'aller prendre une marche. Bien, ces gens-là, le lendemain de cette conférence-là, ils ont encore mal de se faire dire puis d'avoir réalisé que ouais, il a peut-être raison. Il m'écœure, mais il a peut-être raison. Fait que la prochaine fois que je vais m'asseoir dans mon divan, je vais peut-être aller prendre une marche à la place.
Puis ça va à l'encontre, ton discours, dans le cas où tu dis ça, ça va à l'encontre un peu de ce que l'industrie est en train d'essayer d'amener, c'est-à-dire acceptez-vous comme vous êtes,
bien votre dans
corps.
Votre peau,
tous ouais. les corps sont beaux et tout ça. Ben oui, tous les corps sont beaux, puis vous pouvez toujours trouver votre compte, mais il n'y a pas un médecin, même s'il se cache un peu là, dans ce genre de situation-là, il n'y a pas un médecin qui va vous dire que l'embonpoint, c'est bon pour la santé.
Surtout, mais en fait, ouais, mais. N'acceptez jamais le conseil d'un médecin obèse qui vous dit de bien manger.
Ouais.
N'acceptez jamais le conseil financier de quelqu'un qui est cassé.
Ouais.
Faites attention. Mais en bout de ligne, là, ça revient à nous. C'est notre... Votre vie est de votre faute, je le dis tout le temps. C'est notre responsabilité. C'est de voir ça en pleine face. puis de pas se compter de mantra.
Ouais. Non,
mais
j'aime
c'est,
ça ton concept.
Mais c'est pas le fun. Mais c'est pas le fun. C'est pas trippant. Tu sais, c'est... Mais c'est pas tout ce qui est trippant qui donne des bons résultats.
J'aime ça ton concept. Puis la souffrance là, de perdre un être cher là, parce que bon, t'as pas été assez gentil avec elle, puis elle a décidé de quitter, ça a donné les plus belles chansons d'amour. Ouais. Si les amoureux avaient toujours été en amour, les chansons d'amour auraient été plates sur un méchant temps.
Mais ça... Éric Lapointe n'aurait pas de carrière.
Ouais, je pense que lui, ça y a un peu de misère ces temps-ci. mais j'aime ça, tu sais. Puis j'osais avec une thérapeute. Honnêtement, je sais pas si c'était une docteure en psychologie, mais je sais que c'était une thérapeute, je m'en souviens. Puis elle s'occupe des gens qui sont toxicomanes et alcooliques. Puis elle disait que tant aussi longtemps que le toxicomane ou l'alcoolique atteindra pas le bas fond, là, tu peux pas l'aider.
Non, c'est tout fait.
Tu peux pas l'aider. Il va toujours trouver une façon de te mentir pour que tu le laisses pas. Puis c'est à partir du moment où il a atteint le bas fond qu'il va aller chercher de l'aide, parce que là, à un moment donné, il voit plus de lumière nulle part.
Exact, exact.
Fait que je trouve ça intéressant. Tu as écrit combien de livres, Jean Nadeau?
J'en ai 4 d'écrits. Le premier, « J'ai pas de temps à perdre » et « Vous ». Et c'est le seul que j'ai écrit avec un éditeur, qui est pas loin d'ici d'ailleurs. Donc lui, je l'ai... Puis c'est le fun. C'est le fun d'aller chez Archambault, là, puis d'aller chez Renaud-Bré, puis de voir ton livre dans la gang. Là,
tu restes à côté du kiosque?
Oui. Non, j'ai campé là une couple de minutes, certains, là, à prendre des photos dans tous les angles. Sais-tu ce que j'ai même fait? OK, là, c'est... ça fait un peu égocentrique, là, mais à un moment donné, j'avais mon livre qui était là, mais il était pas, tu sais, il était perpendiculaire à la tablette et on voyait pas le front, là, si tu veux. Fait que je l'ai sorti de là, je l'ai mis en front, puis je suis allé chercher un livre d'Anthony Robbins que j'ai mis à droite, puis un livre de, je me souviens plus qui, tu sais, des méga gros, là.
Ben ouais.
Là, j'ai pris la photo, j'ai dit, mon livre se retrouve entre Anthony Robbins puis telle autre personne, je me souviens, Deepak Chopra, mais c'est belle fête. Ça, c'est le premier que j'ai écrit.
Mais ça fait toujours drôle, ça, t'sais, de voir nos affaires qui sont dans des endroits publics. T'sais. Puis moi, proche de chez vous, j'imagine tu l'as vu, là, la pancarte de boulevard avec ma face dessus. Moi, la dernière affaire que je voulais dans ma vie, c'est d'avoir une job où ma face allait être mise de l'avant.
T'es pas à TV, t'es à la radio.
C'est pour ça que je faisais de la radio. Puis maintenant, en changeant de station de radio, bon, eux autres, ils ont d'autres concepts publicitaires. Puis là, je me ramasse sur un arrêt d'autobus, puis proche de chez vous, justement, je monte la côte, puis l'arrêt d'autobus est juste à ma gauche, puis il était genre, je te dirais, 5 heures du matin, genre. Puis le gars était en train de pisser sur l'arrêt d'autobus. Puis c'était moi qui étais là. Puis je l'ai pas pris en photo. Je sais pas pourquoi, j'arrête de prendre en photo.
Maudite belle pub.
Mais il y a quelqu'un qui est en train de pisser sur le côté de l'arrêt d'autobus, puis c'est ma photo qui était là. Tu sais, je veux dire, ce genre d'affaire-là, ça s'invente pas. Là. Mais bref, ça a été
une autre histoire.
Donc, ton deuxième livre.
Le deuxième livre, c'est un challenge que je m'étais donné de sortir un livre en une semaine. Une semaine plus tard, 16 jours plus tard, il est disponible chez Amazon. C'est là que j'ai commencé à travailler sur le s'éditer soi-même. Tu vas pas chez Archambault puis t'es pas à nulle part de ça, mais tu fais plus d'argent. Parce que si moi je voulais chez Archambault, là, ça me donnait 2 piastres du livre quand eux autres le vendaient. Puis là, en faisant ce qu'on appelle du self-edition, ben au lieu de je le vends 20 piastres, puis ça me donne quelque chose comme 14 piastres du livre. Donc juste ça. Et là, c'est un livre de citation, donc c'est pas trop compliqué à faire. Sorti ça une semaine, 365 coups de pied, coups de cœur. Donc, c'est 365, c'est ça, coups de pied, coups de cœur. Ensuite de ça, j'ai décidé d'écrire une... C'est pas une trilogie, quand c'est 4, c'est quoi, une quatrologie? OK, appelons ça de même. Une quatrologie.
Tu as décidé d'écrire 4 livres, un à la suite de l'autre, qui parlaient à peu près des mêmes sujets.
Dont le thème numéro 1 est « Zéro nuance de gris
».
Mais chacun a un thème différent. « Zéro nuance de gris », tome 1, c'est sur les relations.
Mm-hmm.
« Zéro nuance de gris », tome 2, sur le mode de vie politiquement incorrect. « Zéro nuance de gris », tome 3, à écrire. Puis tome 4, à écrire. Mes idées sont dans ma tête, il faut juste que je les mette sur papier à un moment donné. Et donc, c'est ça. Donc, ce sont les 4 bouquins qui roulent actuellement.
Cool. Puis pour ce qui est de « Zéro nuance de gris », relations, est-ce que ta blonde a lu le livre?
Oui, elle a même corrigé, oui. Elle l'a corrigé, fait que le premier coup d'œil a été plus pour essayer de trouver des fautes.
Puis après, comment ça a été votre relation?
On est encore ensemble.
Elle t'a jamais dit, tu sais Jean, la page 125, tu devrais te relire.
Non, pas là-dessus. Il y a peut-être un point sur lequel, parce qu'elle m'en a parlé dernièrement, puis on pourra peut-être en parler tantôt parce qu'on va parler de ce livre-là, mais sur la question, la question qui tue un peu, là, est-ce qu'on peut, en couple, avoir un meilleur ami de sexe opposé ou une meilleure... Moi, je peux-tu avoir une meilleure amie, même si je suis en couple? Puis ma blonde, peux-tu avoir un meilleur ami, même si elle est en couple? Il y a une différence entre le, ça, c'est mon meilleur ami. Lui, c'est juste ça. C'est juste mon meilleur.
Ouais.
Il y a une différence entre ça puis avoir des amis. Tu peux avoir des amis de sexe opposé. Mais ton meilleur ami, dans mes yeux à moi, à ma, dans, dans ma réflexion, ça devrait être à la base ton, ton conjoint ou ta conjointe. Puis le principe d'avoir un autre meilleur ami, ben on pourra en reparler plus tard.
OK, j'aime ça, j'aime ça. Ben, tu sais quoi? J'ai pas l'idée que tu vas nous amener, là. Mais de mon côté, c'est jamais arrivé avec mes conjointes qui avaient des meilleurs amis de gars. Fait que je m'étais comme jamais posé la question. Mm-hmm. Puis vu que tu me parles de ça, je me dis tout le temps, parce que tu sais, il y a beaucoup de filles qui ont des amis gays.
Ouais.
Fait que là, je veux dire, c'est correct, là, tu te poses pas la question. Il n'y a aucune attraction sexuelle. Je pense que j'accepterais très facilement le fait que ma conjointe ait un meilleur ami si ça a déjà été consommé. Puis s'ils ont déjà pensé à d'autres choses pendant plusieurs années, tu sais, mettons, oh ouais, on a déjà été ensemble en 2013, mais aujourd'hui, tu sais, on est des amis, on prend un verre, puis il vient dans nos parties de famille, puis tout ça. Je serais plus porté à l'accepter facilement parce que ça a déjà été consommé.
Pour moi, non.
OK.
Pour moi, non, parce que cette personne-là qui... avec laquelle vous n'êtes plus en couple, puis t'as refait un couple, mettons, elle a refait un couple avec toi, fait que là, ta blonde, elle, son meilleur ami, c'est Roger, mettons. Mais Roger puis elle, ils ont déjà eu cette complicité-là qui a existé.
Ouais.
Ils ont leur secret. Ils ont ce qui se passait dans leur chambre à coucher, ça se passait dans leur chambre à coucher, mais eux autres, ils le savent. Ils ont toute cette complicité-là du souvenir passé,
okay,
qui, à mes yeux, peut être néfaste. C'est okay, ma façon de... Mais en fait, tu sais, la raison pour laquelle j'appelle ça « zéro nuance de gris », c'est justement parce que je dis « arrêtez de ne pas prendre position ». En fait, prenez position.
Ouais.
Je pense que le fait que les gens campent dans la zone grise, ça les castre de tous ces rêves qu'ils veulent accomplir dans la vie. Tu sais, quand t'as un écureuil sur le top d'une clôture, là, puis qui sait pas s'il va aller à gauche ou à droite, ou un chevreuil qui traverse la vingt, là, puis qui voit les autos s'en venir, puis qui arrête en plein milieu le tata de l'autoroute. Écoute, le grand, prends une décision parce que ça va frapper fort en tabarnak. Tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite.
Ouais.
Fait que le zéro nuance de gris, c'est de prendre position. C'est-tu oui ou c'est non? Bon ou pas bon? Vrai ou pas vrai? T'embarques ou tu débarques? T'es sur le chemin ou t'es dans le chemin? Le zéro nuance de gris, c'est ça le titre, le thème général, c'est de prendre position. Donc, chacun de mes livres, les deux premiers que j'ai écrits, je prends position sur les relations. Donc, c'est ce qu'on va partager aujourd'hui, c'est des extraits de ce livre-là, mais c'est mes prises de position à moi.
Ben oui.
Tu sais, quand moi, je te dis que je pense que c'est pire si son meilleur ami, c'est son ex,
ouais,
à cause de ce que je viens de t'expliquer, ben c'est ma prise de position
c'est
à
ça,
moi. Et mes prises de position, je les exprime dans un livre ou dans une conférence ou dans une émission comme on fait là. Puis après ça, je dis aux gens, allez réfléchir, là. C'est votre réflexion à ce que moi j'ai dit qui est importante pour vous.
Exact.
Faites-vous une tête là-dessus. Voici la mienne. Moi, je vous présente la mienne.
C'est ça. Mais tu vois, c'est le genre de questions qu'on s'était jamais posées.
Mm-hmm.
Jamais je m'étais posé cette question-là. Puis après ça, ben en lisant ce livre-là, je me disais, attends un peu, moi, ça serait quoi? Ah, si ça a déjà été consommé, puis ça fait plusieurs années qu'ils sont amis par la suite, il s'est jamais rien passé, mm-hmm, ce serait correct. Mais tu peux pas, naturellement, tu peux pas obliger ta conjointe à dire, hey, lui, je veux pas que ce soit ton ami, moi, ce ouais, serait pas mon genre. Mais tu peux dire, par exemple, moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout.
Ouais, mais tu sais, on est dedans, là. Fait qu'on va continuer dans cet aspect-là. C'est un des gros aspects du livre. Et en introduction à cette question-là, on peut-tu avoir un meilleur ami de sexe opposé? En intro de ça, je parle de liberté. Et c'est sûr, bon, la liberté, elle est excessivement importante sur une base individuelle. Elle est aussi importante dans un couple. A-t-elle des limites sur certains aspects? Pour moi, sur celui-là, il
mm-hmm,
y en a une limite. Tu sais, les filles qui disent « Inquiète-toi pas, mon amour, c'est mon meilleur ami, mais il n'y arrivera jamais rien avec lui. Ça a toujours été platonique avec lui. » OK, ça se peut que ça soit parce que tu n'y as jamais proposé. Ton meilleur ami, là, arrive chez eux un soir, là,
ouais,
t'es en tabarnak après ton chum, puis tout ça, là, t'es en tabarnak après mon vieux de semaine, va-t'en chez vous, puis tout ça, puis il va te prendre dans ses bras parce que c'est juste ton ami, là. Fais-lui la moindre petite approche sensuelle ou sexuelle, là,
ouais,
puis vois sa réaction.
Ça a été
99% vont se baisser les culottes.
Ben, c'est ça. T'sais, ça a été fait au States,
ah non,
pendant...
T'es pourtant juste ton meilleur ami.
Un podcast, il y avait 12 filles dans le podcast, qui étaient les 12 filles invitées, qui étaient là pour assister. Puis il y avait un gars comme toi qui essayait d'éveiller leur conscience sur les relations hommes-femmes et tout ça. Puis les filles disaient, non, d'avoir des amis, c'est tout à fait normal. J'en ai un meilleur ami, parfait. Es-tu hétérosexuel? Oui, OK, c'est beau. Appelle-le et propose-lui que ce soir, tu te sens seul. seul, puis que tu aimerais ça qu'il y ait une relation autre que d'amitié, puis qu'il y ait des contacts physiques, puis que demain, on passera à d'autres choses. Pis les filles étaient toutes prêtes à jurer. Non, 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 non. Et c'est sûr ça qu'il va dire non. Puis sur les 12, là, il y en a 10 qui ont dit oui.
Tout à fait.
Il y en a deux. Il y en a deux qui ont dit, ben non, écoute, notre relation est trop précieuse pour qu'on la gâche. Puis les 10 autres gars ont dit, écoute, si c'est juste pour un soir, ça ne changera rien.
Exact. Donc, c'est ça. Donc, ton meilleur ami, là, on prend l'exemple vers le gars, là, mais propose-lui, voir. D'après, je suis convaincu, mais à 99 % qui vont dire oui, sauf peut-être s'il est gay. Puis justement, c'est ce qui fait en sorte que les femmes aiment d'avoir des amis gays, parce qu'ils savent que ça, ce risque-là n'arrivera jamais. Mais puis encore plus, si ton meilleur ami est ton ex, parce que lui, il sait ce que tu as besoin, autant au niveau émotif, parce qu'il l'a vécu dans le temps qu'il était avec toi, qu'au niveau physique et sexuel.
Ouais.
Fait que lui, il va te redonner ce qu'il t'a déjà donné.
Ce livre-là, est-ce que tu sentais qu'il y avait une demande pour ce type de livre-là?
Ben, c'est une des choses qui... les relations, c'est ce qui occupe le plus notre vie. Les relations puis l'argent, puis les enfants quand on en a, c'est une des choses qui occupe le plus notre vie. Et le problème qu'on voit souvent dans les relations, c'est que nous, les gars, on se pose des questions ces filles, puis de temps en temps, on va s'en jaser parce qu'on jase de temps en temps. On fait pas juste roter, puis péter, puis écouter le hockey, prendre de la bière. De temps en temps, on jase un peu entre nous autres aussi. Mais on jase des filles entre gars. Fait qu'on se fait une opinion sur les filles entre gars. Puis les filles se font une opinion sur les gars entre filles. Ils se ramassent ensemble. Ah, les gars. C'est ce qui a donné, qui était à la naissance, si tu veux, de ma conférence Homme 101. C'est une conférence que j'ai prononcée 5 fois, à peu près une centaine de femmes à chaque fois. Un seul gars a assisté à cette conférence-là, mais c'est parce qu'il m'avait dit, mais moi, je suis gay. Moi, je veux savoir, c'est quoi les secrets des hommes? Il dit, OK, t'as un bon point, tu peux venir. t'es le seul. Mais les autres gars, je veux pas qu'ils soient là, parce que Françoise, qui vient avec Rogatien, là, puis qui m'écoute pendant ma conférence Homme 101, où là, je dévoile tous les secrets sur cette petite bête d'une simplicité déconcertante qu'est l'homme, elle m'écoute, puis elle va se regarder, ben, elle va se retourner, puis elle va regarder Rogatien. Tu verrais ce qu'il dit là, Nado? Rogatien, il va dire, pas vraiment tout, c'est pas... Mais non, c'est vrai.
Le cerveau d'une femme, le cerveau d'un homme, tu fais pareil?
physiologiquement, non. Ouais. Je pourrais pas te dire, parce que je l'ai dans ma conférence, ou peut-être que je l'ai dans le livre, je me souviens pas, mais physiologiquement, c'est pas pareil. Mais comment
nos cerveaux qu'on fonctionne?
Oui, au niveau du fonctionnement. Ça, c'est super intéressant. Imaginez le cerveau de l'homme et de la femme, imaginez-les comme, mettons, deux boules, une boule gars et une boule fille, puis dans cette boule-là, il y a des cases. Il y a des cases pour tout. Une case pour le sexe, une case pour l'argent, une case pour les enfants, une case pour le linge, une case pour le sport, toutes des cases, toutes les choses qui occupent notre esprit. L'homme, dans son cerveau de gars, lui, il rouvre une case à la fois. Il s'en va au hockey, il pense juste à la game. Il referme la case de hockey, il retourne chez lui. Et oh, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie demain, il faut que j'aille à la banque pour le prêt. Là, il vient d'ouvrir la case d'argent. Puis après ça, quand il revient, les enfants sont pas couchés. Oh, il rouvre la case. Mais ces cases-là se rouvrent une à la fois et se referment à chaque fois et elles n'interagissent jamais entre elles. C'est une case à la fois, comme ça qu'on est fait. Puis on a une case que les femmes n'ont pas. Mais Batin, est-ce qu'il aimerait ça de l'avoir, cette case-là? Ça, c'est la case du rien. Dans la case du rien, là, il se passe rien. Tu sais, t'es dans le salon chez vous, là.
Mm-hmm.
Puis là, ça fera pas un bon moment de radio, mais laisse-moi aller 2 secondes, là. Où là, ta blonde, elle te regarde, puis elle dit, Yannick, à quoi tu penses?
À rien.
À rien. Un silence total. C'est Yannick, à quoi tu penses? À quoi? À quoi tu pensais? À rien, chérie. Non, tu peux pas penser à rien, tu es en train de penser. Non, tu le sais. Okay. C'est le Twilight Zone, je pense à rien.
Puis les gars ont ça aussi après avoir fait l'amour. Là.
ça, c'est peut-être un petit blackout.
On est couché, relax, puis là, elle nous demande à quoi tu penses. Puis tu dis, oh fuck, faut que je réponde.
Faut que j'essaye de trouver quelque chose.
À rien.
Mais c'est ça. Mais les femmes n'ont pas ça, cette case-là, parce qu'ils pensent toujours à quelque chose. Puis ils aimeraient ça en avoir une. Puis là, vu qu'ils n'en ont pas, je peux-tu aller dans ta case de rien? J'aimerais ça passer un petit peu de temps dans ta case. Non, tu viens pas là. C'est ma case de rien. Mm-hmm. Puis il n'y a justement rien. Si tu viens dedans, tu vas mettre de la petite musique de Yanni, une plante verte, puis un aquarium, puis tu vas décorer ça. Non, ça, c'est ma case. Tu n'as pas d'affaire là. Fait que les gars, c'est un cerveau avec des cases, puis ils rouvrent une à la fois. Ils n'interagissent jamais entre eux, ces cases-là. La femme, elle a des cases, elle aussi, mais elles interagissent toutes en même temps. Si elle décide de s'habiller d'une façon le matin, ça interagit avec la façon dont elle va aller. Ah non, c'est vrai, je peux pas, je vais faire l'épicerie l'après-midi en venant du bureau, je peux pas m'habiller comme ça. Il y a toujours une les enfants, si les enfants me voient habillé de même, si j'arrive trop, ils sont toujours, toutes leurs pensées sont toujours interreliées entre eux autres. C'est ce qui fait en sorte que on dit souvent que l'homme est simple, parce que c'est une cause à la fois. Mais ça ne veut pas dire que, parce qu'on dit que l'homme est, ça, est simple, que la femme est compliquée. Elle n'est pas compliquée. La femme est spectaculaire et changeante. Ça ne veut pas dire qu'elle est compliquée. Elle est spectaculaire et changeante. Et d'ailleurs, dans le jeu du couple, ça, c'est Yvon Dallaire qui m'expliquait ça, puis je reprends souvent son analogie. Dans le jeu du couple, il faut comprendre le jeu de l'autre. Imaginez là, un tableau, une table d'échecs ou de dames, là, un damier qu'on appelle.
Ouais. Hein?
Nous, on est assis d'un bord de la table, la femme est assise de l'autre bord. Nous, devant nous, là, de notre côté, c'est des pièces de dame. C'est pas compliqué, ça, là. C'est des rondelles, là, des petites rondelles. Puis ça va par en avant ou en biais, that's it, that's all. Fait que c'est un jeu qui est très, très simple. Le jeu de l'homme est très, très simple. Stupidement simple, quasiment. C'est par en avant, puis oui, par là, puis on continue. La femme, elle, qui est assise en face de toi, sur le même damier, elle, c'est pas des pièces de dame qu'elle a devant elle, c'est des pièces d'échecs. As-tu déjà joué aux échecs?
Oui.
Ça va de tout bord, de tout côté, cette affaire-là. Ouais, les tours d'un bord.
Des coups d'avance.
Là, c'est ça, puis il y en a un qui va de côté, l'autre qui va en biais, l'autre qui va en aile, puis ouais. Tout ça. Donc, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste que c'est différent et il y a beaucoup plus de variété. Donc, il faut que moi, je comprenne qu'elle, quand elle est en couple avec moi, elle, c'est aux échecs qu'elle joue. Puis elle, quand elle joue avec moi dans mon couple, il faut qu'elle comprenne que moi, c'est aux dames. C'est juste qu'on joue pas le même jeu, mais il faut comprendre le jeu de l'autre et il faut rire. Puis les couples qui fonctionnent, c'est ceux qui ont réussi à se créer un troisième jeu, acceptant de temps en temps de jouer aux échecs, qu'elle accepte de temps en temps de jouer aux dames, mais qu'à quelque part, entre les deux, on se rejoigne pour jouer le jeu qu'on aurait inventé nous autres ensemble. Donc, et tout ça part justement du cerveau. Comment on est constitué? On n'est pas fait pareil.
Oui, puis c'est biologique.
Puis on n'aime pas de la même façon non plus.
Ça ne doit pas être pour rien que ça a été fait de même.
Ben oui, sûrement. Puis c'est le même pas juste dans l'espèce humaine, c'est le même dans toutes les espèces animales. Un orignal puis une jument orignale, ça ne pense pas de la même façon. Pas certain qu'ils ont des corps, eux autres.
Ouais. Moi,
qu'il y en a beaucoup.
Mais... J'ai des couples gays dans mon entourage, tu sais. Puis les filles qui viennent à la maison une fois de temps en temps, tu sais, ils jasent. Puis je vois que leur relation amoureuse est beaucoup plus complexe que la mienne. Puis il y a beaucoup de questionnements par rapport à leur relation amoureuse. Moi et ma blonde, des fois, on s'en jase dans notre relation amoureuse, mm-hmm. là, mais... honnêtement, c'est pas aussi complexe. Eux, tu sais, ils ont plusieurs cases. Là.
Ouais.
Puis ils doivent interagir avec les cases des autres. Puis ça semble être pas mal plus compliqué être un couple femme qu'un couple de gars. Parce que moi, j'ai des amis qui sont un couple des gars, ouais. De gars aussi. Eux autres, là, c'est des vrais gars. Là. Ouais. Oh, ben, on s'en va là. OK, on se pose pas de questions comment on s'habille. Puis tout ça. Non, on s'en va là. On fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça. C'est le genre de couple que j'ai autour de moi, mais c'est fou à quel point je réalise des choses quand tu me dis les filles, ils ont plusieurs cases, puis sont capables de s'occuper de plusieurs choses en même temps. Puis moi.
Ils sont préoccupés par plusieurs choses
ouais,
en même temps.
Puis moi, tu sais, dans mes relations de couple, au contraire, j'ai tout à eu l'impression de pas aller assez vite pour eux parce que moi, c'était une chose à la fois. On commence quelque chose et on termine mm-hmm. quelque chose, puis après ça, on s'en va ouais. sur d'autres choses.
Mais imagine, tu mets deux femmes ensemble,
ben c'est ça.
Que leur cerveau est toujours en interaction sur tous les sujets. Wow! Mais d'un autre côté, on pourrait aller dans le sens que tu as dit en disant deux gars ensemble, tabarnouche, ça doit être simple. Mais j'ai un couple d'amis gays dans une profession que j'exerçais dans le temps que tu connais. Dans cette gang-là, il y avait un gars qui était gay. Puis à un moment donné, on était toute une gang ensemble, puis tout ça. Puis il y a un des gars qui disait « Ah, moi, ça va mal dans mon couple, tabarnouche. » Puis il dit « Je pense que je t'avais d'aller jouer dans ton équipe. » Et le gars gay qui était dans notre groupe, ouais. Il dit « Non, les gars, allez pas penser que c'est plus facile, là. Nous autres, on est moitié-moitié, là. Il y a une partie de nous qui a la pensée d'une femme, puis il y a la moitié de nous qui a la pensée d'un homme. » Fait qu'elle n'est pas pensé que c'est plus facile pour nous autres.
Mais moi, c'est ça. Les deux, le couple que je connais de gars gays qui sont assez proches de nous autres, là, qu'on voit régulièrement, eux autres, c'est vraiment des gars-gars.
OK, ouais.
Eux autres, là, prennent une bière pendant toute la fin de semaine, ils n'ont aucun problème avec ça. Ouais. Puis le lundi, il arrivera quand ce sera lundi. Là.
Sais-tu ce qu'ils vont d'aller me raconter à un moment donné? Je pense que c'est dans une entrevue radio que je faisais avec lui. Est-ce que, d'après toi, quel est le couple Quels sont les couples qui s'assoient dans son bureau en consultation qui sont les plus violents? C'est-tu les hétéros? C'est-tu les gars gays ou c'est les lesbiennes?
Les hétéros. Non?
Les lesbiennes.
Ils sont, ben, psychologiquement,
c'est ça qu'il me disait. Non, non, mais il dit, eux autres, là, c'est la violence totale.
Oh,
il dit,
ouais.
Ce sont les plus violentes qui ont passé dans mon bureau dans l'exercice de ses fonctions comme psychologue. Là. Il dit, c'est les personnes les plus violentes, celles qui ont eu les engueulades ou les prises de bec les plus orageuses et violentes. Parce qu'il dit, imagine, là, justement, parce qu'ils ont un cerveau pareil et qu'ils interagissent de tout bord, de tout côté, toutes les cases ensemble. Puis il dit, en plus de ça, une fois par mois, ils ont leur cycle prémenstruel. Fait que si ça tombe, c'est la même semaine. C'est le cocktail Molotov. Et il dit là, ça fait pas juste se graffiner, ça se tire des assiettes.
Des étincelles dans ta cagade.
Toi puis moi, là, quand on pense lesbienne, c'est pas pantoute de bataille puis de tirage.
On pense pas aux chicanes.
Non, non, on pense pas beaucoup à chicanes. Ils ont de l'air à bien s'entendre, en tout cas, nous autres.
Oui, c'est ça. Moi, je m'assistais à ça, honnêtement, mais en même temps, lui...
Les gars t'en ont parlé, sûrement.
Dans son cabinet. Mais c'est une impression que moi, j'avais, c'est que c'était plus facile gaga que fille, ça sent. La relation amoureuse était au centre de tout ça. Ça semblait très complexe. Là. Il y avait des activités prévues, puis des petits moments pour se recueillir, puis des petits moments solo et tout ça. Alors que moi, ça s'appelle lundi, mardi ou mercredi. Si elle est là, elle est là. Puis si elle n'est pas là, elle
n'est pas là. Prends juste justement mon industrie à moi, mon domaine à moi des conférenciers. La très grande majorité, il y en a de plus en plus, mais la plus grande des femmes, mais la plus grande majorité de ceux qui sont sur scène, ce sont des gars. Puis la très grande majorité de celles qui sont des personnes qui sont assises dans la salle, ce sont des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes se questionnent tout le temps, se questionnent sur eux, sur leur évolution, leur raison d'être, leurs bonnes actions. Ils sont toujours en questionnement. Fait que si tu mets deux femmes ensemble qui sont toujours dans ce questionnement-là, ouais, ça peut devenir complexe des fois. Là.
Exact. Hey, la question qui tue, Jean. Est-ce que les hommes et les femmes peuvent avoir comme meilleur ami une personne de sexe opposé?
C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que non.
Moi, je pense que oui.
Moi, je pense que non.
Oui, mais.
Oui, mais, OK.
Mais ben, je te l'ai dit. Moi, à partir du moment où la fille me dit, regarde, on était ensemble en 2007, on s'est arraché la tête quasiment, on a consommé notre union, c'est fini, puis depuis ce temps-là, on s'entend comme des larrons en foire, on a eu régulièrement des soupers avec nos conjointes respectifs, on a passé à d'autres choses... Moi, j'ai pas de trouble avec ça. Mais si je me fie à ce que j'avais vu dans ce fameux podcast-là, qui n'était pas une étude scientifique, ou si je me fie à ton livre, qui est intéressant, des fois, il faut juste se poser des questions.
Mmh. Ouais. Ben, c'est ce que je disais tantôt. Moi, personnellement, encore là, c'est mon point de vue. C'est mon livre à moi. C'est moi qui met mon zéro nuance de gris puis qui donne mon opinion. Je pense que parce que ça a été et on sait ce qui a été, on sait ce qui a fait en sorte qu'on n'est plus ensemble. Mais la portion qu'on était ensemble un bon bout de temps, ben elle existe encore dans nos souvenirs, ne serait-ce que ça. Fait que si ça ne va pas dans ton couple, puis tu retournes voir monsieur ou madame qui te connaît comme ça, puis qui connaît toutes tes,
ouais,
tes... Autant au niveau psychologique qu'émotif que sexuel, me semble que la trail est ouverte, là. Tu fais toujours ouvrir la porte, puis on retombe dans la trail, puis tu rembarques dedans.
Mais c'est pour moi, quand je mets des vidanges au bord du chemin, j'ai pas le goût d'aller retourner. Je pense que
ouais, c'est une faction figurée, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, encore là, c'est ça, c'est propre à chacun.
Y a-tu de la jalousie là-dedans?
Sûrement. Sûrement qu'il y a une portion de jalousie, mais pas plus envers si c'est un ex ou c'est quelqu'un de nouveau, mais... Je pense juste que, ben, premièrement, comme je te dis, ma meilleure amie, c'est ma blonde. Tu sais, as-tu des meilleures... Oui, ma meilleure... Tu sais, c'est la meilleure, là. Je te dis pas que j'ai pas d'amis de filles,
ouais,
mais ma meilleure amie, celle avec qui vers qui je vais aller, c'est ma blonde. Puis si ça va pas, c'est un de mes trois meilleurs chums que je vais aller voir. Mm-hmm. C'est eux autres que je vais appeler. J'ai pas une autre fille, moi, dans ma vie, encore moins une ex. Pas parce que je les renie puis que je les haïs maintenant puis tout ça, mais... S'il y a quelqu'un vers lequel je ne retournerai pas, c'est que je vais retourner, c'est une ex. Mais si ça ne va pas, c'est ma blonde. Puis si c'est pas si ce qui ne va pas, c'est à propos de ma blonde, puis j'ai le goût d'en parler à quelqu'un, ça va être un de mes chums.
OK.
Et il y a les trois, mes trois meilleurs chums, il n'y en a pas un qui va m'inviter à coucher avec. Il n'y en a pas un qui va m'ouvrir la porte à. Alors que si c'était une fille, ça se peut qu'elle me la rouvre. Si c'était un gars, ça se peut qu'il te la rouvre, madame.
Puis là, j'étais en séance de consultation, là, docteur. moi, je ne suis pas le genre de gars, je sais que ça va te surprendre, Jean, mais je ne parle jamais de ma relation de couple là, ou des interactions que je peux avoir, que je trouve peut-être négatives une fois de temps en temps. Je ne parle jamais de ça avec mes amis. Jamais. Pourquoi? Parce que je me dis tout le temps, j'expose ma façon à moi de voir les choses, sans le vouloir ou peut-être de façon intentionnelle, je vais mettre des trucs dedans qui vont induire en erreur mon ami à qui je demande conseil, puis la personne va me dire de quoi, puis j'ai plus l'impression que ça va interférer dans ma façon de penser. Tu sais. C'est quoi ton opinion là-dessus par rapport aux amis quand on jase de nos relations de couple? J'ai l'impression que c'est biaisé un peu.
Ouais. Je veux juste ouvrir la parenthèse sur le fameux meilleur ami qui serait ton ex, mettons, qui serait son ex.
Ouais.
S'il y a quelque chose, mon opinion à moi, mon livre, Zéro nuance de gris, je vous dis ce que je pense. S'il y a une chose que j'ai pas envie que ma blonde... S'il y a une personne avec qui j'ai pas envie que ma blonde aille parler de notre couple puis qui parle de moi parce que j'ai telle ou telle problématique, c'est bien son ex, tabarcelac.
C'est un très bon point.
Hein? Ça, c'est bien son ex. Si elle en veut en parler à sa meilleure amie, ou si moi, je veux parler à mon meilleur chum de choses qui se passent dans mon couple, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, sachant que moi, ayant la sagesse de savoir que ce que je vais lui exposer, c'est seulement un côté de la médaille. Il y en a un autre. Elle en a un, elle aussi.
C'est ça.
Fait que je lui dis, je vais te parler d'un problème que j'ai avec ma blonde. Ce que je vais t'exposer, tu me diras ton point de vue, comprenant tous les deux que tu vas juste entendre un côté de la médaille. Elle te dirait quelque chose, puis tu auras peut-être une autre opinion.
Sauf que tu as l'intelligence de le faire, de le dire à l'autre personne. Ouais. Mais trop souvent, les filles vont faire confiance à l'opinion de leur ami de fille qui n'était pas là, qui ne tenait pas le fanal pendant la chicane. Les gars vont faire confiance à leur ami de gars qui n'était pas là, qui ne tenait pas le fanal pendant la chicane, puis ils vont revenir dans le couple et ils vont dire « Ouais, j'ai parlé de toi à Marc, j'ai parlé de notre problème, puis Marc, il est d'accord avec moi. Ben, c'est ton ami à toi. »
Exactement.
C'est normal.
C'est ton ami à toi, t'as une relation, il y a une émotion entre toi et puis Marc. Là, c'est ton chum, c'est ton meilleur ami, tu l'aimes.
Body, proximité.
Fait que c'est ça. Il va être dans l'émotion, dans ce qu'il va partager avec toi. Mais c'est pour ça qu'ils vont dans l'air de ce monde, là, les spécialistes, les coachs familiaux, tout ça. Moi, je crois à ça parce que quand tu vas voir ces gens-là, ils ne sont pas imprégnés d'une émotion envers toi.
Exact.
C'est, eux autres, là, justement, eux autres, ils rouvrent. OK. Toi, tu arrives là, tu penses que tu as un problème exceptionnel. Non. Eux autres, tu arrives là. Quand tu commences à te compter, lui, ça va être tel problème, ils rouvrent le tiroir et disent, il faut que j'y dise telle affaire. Qui est complètement détaché émotionnellement de la personne. Ton chum, il est émotionnellement, ou ta meilleure amie, elle est émotionnellement impliquée avec toi, elle va prendre ta défense. Tu comprends? Fait qu'il faut en prendre puis en laisser, mais ne serait-ce que d'en parler, juste ça peut être très thérapeutique. Juste d'en parler avec ton chum, ça peut être très thérapeutique. Ouais. Je vais vous donner un truc aussi. Votre iPhone, là, tout le monde a un iPhone dans les mains, là, puis il y a une petite place où tu peux t'enregistrer là-dessus. Là. Dis-le à ton iPhone. T'as un problème, là? Pars ton enregistreuse, ton iPhone, puis parle-en. Dis à ton iPhone ce qui va pas.
OK.
Mets ça de côté, puis deux jours plus tard, va le réécouter. Juste de l'avoir dit, premièrement, juste de l'extérioriser, même si tu as une machine, là, ça fait déjà du bien. Tu l'as plus en dedans, tu n'es pas tout seul, là, tu l'as sorti. Puis après ça, va te réécouter. Puis bien souvent, tu vas avoir, deux, trois jours plus tard, la sagesse de réécouter ça, puis de voir ça d'un autre point de vue.
Puis tu vas cheminer aussi.
Puis ça ne sera pas une opinion teintée d'émotion parce que c'est ton meilleur chum qui te l'a dit.
J'aime ça. Dans ton livre, Zéro nuance de gris pour ce qui est des relations, tu parles de confiance brisée.
Ouais.
As-tu déjà eu la confiance brisée dans le couple?
Tout à fait. Ouais. Tout à fait, dans plus d'un couple.
C'est un sentiment de trahison qui doit être ignoble.
Tout à fait. T'as jamais eu ça, toi? T'as jamais eu de bris encore. De confiance, non?
Pas encore. Quelques-uns dans le sens où je pensais que la personne qui partageait ma vie allait garder ça pour elle. J'ai pas un métier comment je pourrais dire ça? Si t'es plombier... Puis Yannick, le plombier, a fait telle affaire avec sa conjointe, il a dit ça. Chez les gens, ça n'aura pas nécessairement d'impact, mais Marceau, qui travaille à radio, qui a dit ça à sa blonde me l'a dit, puis c'est épouvantable.
Ouais.
Là, ça permet à des gens, j'ai un potin que je peux raconter. C'est comme plus vendeur comme potin que le Yannick qui aurait été plombier, parce qu'on fait un métier public.
Public, t'es connu.
Ça, j'ai eu des déceptions à ce niveau-là parce que je m'attends à ce que ma vie privée reste privée, bien que je sais que, tu sais, ma blonde n'étant pas dans les médias, elle, c'est Yannick... Yannick Normal, qu'elle connaît.
C'est Bobette Troué.
Je suis pas le personnage que je suis en onde. Là, Yannick Normal. Fait que je comprends ça. Fait que je comprends qu'elle peut parler de notre vie de couple à d'autres filles ou d'autres personnes. Puis que ma vie est un peu étalée. Mais des sentiments de trahison, des tromperies, tout ça, j'ai jamais été au fait de ça. Il n'y a jamais personne qui m'a...
C'est sûr que quand on pense quand on parle de confiance, on pense tout de suite à la trahison ultime qui est l'adultère. Là. Tu couches avec avoir un amant, une maîtresse ou une fling, une one night.
J'ai un exemple de confiance brisée. Ouais. Okay. Moi, mon salaire, il est personnel. Bon, ben une de mes ex a déjà révélé mon salaire à ses amis de filles. Mm-hmm. Ça, j'avais trouvé ça ignoble.
Okay.
Parce que je me dis, tu sais, qui jase du salaire du conjoint ou de la conjointe? Moi, je n'ai jamais demandé ça à quelqu'un. T'sais.
Je pense que quel que soit le lien de confiance qui est brisé, est-ce que ce lien de confiance-là peut reprendre? Ma réponse à moi, c'est non.
T'as raison.
C'est terminé.
Ouais.
C'est la confiance que j'avais en toi avant la trahison... Pour nous, les hommes, ça retombe beaucoup sur la loyauté. Pour nous, la loyauté, c'est ça l'amour de notre blonde. La loyauté que notre blonde a envers nous, là, ça, c'est ça pour nous l'amour d'une blonde pour nous autres, d'une amoureuse. Donc, si ça s'est brisé, si la loyauté est brisée, oublie ça, c'est terminé. Mm-hmm. C'est terminé. Cette confiance-là est terminée. Si, une fois que la poussière est retombée un petit peu, tu te dis, bâtince, mais... Elle l'aime quand même. Crève, j'ai encore des sentiments pour
elle.
Ça
n'enlève pas l'amour, Jean.
C'est ça. Mais ça fait mal.
Mais ça instaure un climat de méfiance.
Exact.
Tu vois, moi, quand on va à caisse, nécessairement, puis vous êtes deux à passer pour l'hypothèque, il faut que tu révèles tous tes avoirs. Puis moi, c'est pas le genre de choses que j'étale. Puis là, ben, j'étais obligé de me mettre tout nu devant la dame de la caisse puis devant ma conjointe qui savait à peu près comment je gagnais, mais pas le montant précis. Mm-hmm. Puis de savoir que ça avait sorti, ça m'avait ça m'avait déçu. Puis je me suis dit, OK, t'as peu, là, je vais-tu y révéler encore une autre fois mon prochain contrat?
Ouais.
Ça va être combien? Puis tu sais quoi, la réponse,
c'est... Et quoi d'autre aussi? Et peut-être d'autres choses aussi, là, tu sais.
Oui, exact. La réponse, c'est non. Ouais. Je m'étais fermé comme une huître.
Oui, oui. Donc, est-ce que la confiance brisée, la loyauté brisée, peut renaître comme elle était? Non. Ça, c'est clair, net, précis. Si, avec les jours qui passent, puis tout ça, tu réalises, exemple, mettons que c'est un bris de confiance de quelque chose qu'elle a fait par rapport à quelqu'un d'autre, est-ce que cette confiance-là peut revenir de façon comme elle était? La réponse est non. Est-ce qu'elle peut revenir autrement? Ça, oui. Tu t'assois ensemble, tu dis, écoute-moi là, je réalise que j'ai encore des sentiments pour toi. J'ai le sentiment d'amour pour toi. Si je mets ça de côté, là, tout le reste, là, je suis encore en amour avec toi. Mais ça, là, oublie ça, c'est terminé. Là. Cette confiance-là que j'avais pour toi, là, elle ne reviendra jamais telle qu'elle était.
Exact.
On est-tu capable de bâtir quelque chose d'autre? On est-tu capable de se définir une nouvelle confiance, puis de repartir là-dessus, puis de voir comment ça va aller? Et ça peut très bien aller. Mmh. Tu peux continuer avec une nouvelle confiance, mais il va toujours rester cette cicatrice-là. Puis la personne qui a causé cette cicatrice-là, il faut qu'elle soit consciente que la personne qui a été, dont la confiance a été brisée va toujours être sensible à ça. À ce point-là, tu m'as menti. Je vais toujours être méfiant de ta parole. Mais je peux quand même vivre avec toi pour tout le reste parce que je sais que je t'aime. Tu es une merveilleuse personne. Mais il y a un moment donné où tu as fait une erreur, puis cette erreur-là va être cicatrisée sur ma vie.
Tu sais, moi, mon couple avait continué. C'est juste que moi, j'avais exposé ce que je ressentais. Puis j'y avais dit, tu sais, moi, t'es dans les zéro nuances de gris. Tu étais un peu comme moi. Moi, j'avais dit, cette portion-là, tu ne sauras plus jamais rien de cette portion-là. Puis elle avait pas super compris, là. Puis j'ai peut-être été un peu raide quand je lui ai dit, mais cette portion-là, pour ce qui est de mes avoirs, mon salaire, tu ne seras jamais plus impliqué là-dedans. C'est fini. Mm-hmm. C'est terminé.
Ouais.
Puis à travers ça, j'avais expliqué que pour une vie de couple, que ce soit vie de couple publique ou non, on doit quand même garder une certaine réputation, tu sais, à l'intérieur. Ma femme ou ma conjointe auprès de mes amis doit être la personne la plus formidable de la Terre, tu sais. Elle l'est pour moi. Fait que quand je l'expose, je veux l'exposer comment je la ressens et pas juste les petits côtés négatifs, tu sais. Puis on avait continué d'être en couple, mais cette portion-là, elle l'a, tu sais, encore aujourd'hui, elle n'a plus jamais été capable de le ravoir, tu sais. Elle ne sera plus jamais. Hein.
Tout à fait. Donc la réponse, est-ce que la confiance peut renaître après un bris, après un manque de loyauté, oui, mais attendez-vous pas que ça soit la même que ce que vous aviez avant. Celle-là est morte.
Ouais. L'infidélité, ça se pardonne-tu?
Elle s'explique. Entre autres, dans ma conférence Homme sans haine, je l'explique pour l'infidélité des hommes. Mais est-ce qu'elle se pardonne propre à chacun? Moi, je ne la pardonnerai pas.
OK. Je suis en train de piger dans mon bagage à préjugés. Les filles qui sont à l'écoute vont lever le son. J'ai l'impression que c'est les femmes qui pardonnent plus ça, l'infidélité, que les hommes.
Bonne question.
Elles vont s'en souvenir toute leur vie. Mais j'ai l'impression qu'elles vont le pardonner. Tu sais, pour avoir les amis de filles à ma blonde qui sont tout le temps rendus à la maison, là, c'est comme j'ai tout le temps l'impression d'être à occupation double. Tu sais, ils parlent souvent d'infidélité et tout ça, puis tu sais... Il y en a une qui est avec son chum depuis une quinzaine d'années, puis sans trop rentrer dans sa vie, elle s'est fait tromper trois fois, puis elle est encore avec, parce qu'elle dit que c'est le meilleur gars de la Terre, puis qu'elle l'aime énormément, mais que les trois fois, là, c'était comme un coup de poignard dans le ventre. Puis je me disais dans ma tête, tu sais, moi, je ne tolérerais jamais ça une fois. Comment ces gens-là sont capables... Comment une femme est assez grande pour dire... Grande, pas dans le sens de grandeur, mais dans le sens de sa personne, pour dire, écoute, mon chum a sauté à la clôture... Je lui pardonne, alors que moi, petit... Non, moi, le jour où une fille me trompe, c'est fini, c'est terminé, tu sais.
Est-ce que ça serait... Et là, on rouvre le sujet ensemble. J'y réfléchis tout haut devant un micro, là. Une, dans ma conférence Homme 101, une des choses qui explique, sans la pardonner, mais une des choses qui explique que les hommes peuvent tromper puis s'en retourner à la maison puis continuer leur vie de couple... Pour l'homme, les trois choses les plus importantes, les trois besoins principaux de l'homme. Le premier, j'en parlais tout à l'heure, la loyauté. On a besoin de sentir cette loyauté-là chez la femme. On veut sentir son support également. Elle nous supporte dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a, puis tout ça. Et le troisième, c'est le sexe. Si j'ai plus le sexe, si l'homme n'a plus le sexe, ça se peut qu'il aille le chercher ailleurs.
Mais t'es plus loyal envers ta conjointe à ce moment-là.
Non, mais il y a encore... Non, mais elle a encore de la loyauté envers toi, puis elle a encore de l'admiration envers toi, puis elle a encore du support envers toi. Elle a juste pas de sexe, elle t'en donne pas.
Comprends.
Est-ce que la femme, et là, comme je te dis, je pense tout haut en même temps qu'on se parle, devant un micro, est-ce que la femme, sachant que elle a encore cette loyauté-là envers lui, puis elle a encore ce support-là envers lui... Elle va dire, OK, je vais passer par-dessus le fait qu'il est allé chercher du sexe ailleurs. Est-ce que c'est ça qui fait que les femmes le pardonnent plus que les hommes? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette statistique-là. Yvon pourrait peut-être plus nous dire ça, un gars comme Yvon Dallaire. Mais en tout cas, toi, je ne sais pas. Moi, tu me poses la question, est-ce que toi, tu accepterais l'infidélité? Moi, c'est non. Là-dessus, reviens-moi même pas à dire, on essaie-tu de se bâtir une nouvelle confiance, là?
On est deux bocs.
Terminé.
On est deux bocs, Jean. L'équilibre dans un couple.
Ouais.
On pense souvent d'équilibre dans un couple, un rapport de force, ouais. J'imagine. C'est ça, dont tu parles. Ouais. C'est un mythe, ça?
Ouais. En fait, c'est un mythe dans la vie, puis c'est un mythe dans notre couple. Tu sais, tu as peut-être déjà vu ça à la télé ou directement en personne quand c'était à voir le Cirque du Soleil. Tu sais, l'artiste, souvent, c'est des... En fait, celui que moi j'ai vu, c'est un Asiatique, là. Il y a comme des bâtons qui tiennent droite là, au sol, dans les airs, puis il fait tourner des assiettes sur le top du bâton. Tu sais, il fait tourner des assiettes sur elle-même, sur le stick, là, puis ils font tourner l'assiette.
Ouais.
Puis là, il en met une, puis il en met une à droite, puis une autre à droite, puis une autre à droite. Et là, il est rendu, il y a 20 sticks là, qui sont dans les airs, puis il y a 20 assiettes qui tournent. À un moment donné, il regarde à l'autre bout, et Christy, il faut que je retourne, il faut que je lui redonne un swing, parce qu'elle est en train de lâcher. Cet équilibre-là, d'avoir toutes les assiettes qui tournent tout le temps en même temps, puis de la même façon, c'est une façon figurée de démontrer que non, l'équilibre n'existe pas dans la vie. Tu sais, quand tu... Et dans nos couples non plus. Tu sais, dans la tarte, la pointe de tarte de l'énergie de tout être humain, t'as quoi dans la pointe de tarte? T'as une pointe de tarte qui est du travail, t'en as une, c'est le couple, t'en as une, c'est les enfants, l'autre, c'est le sport, l'autre, c'est le sexe, l'autre, c'est la méditation, l'autre, c'est les voyages, etc., etc., etc. La vie, c'est un moving target. C'est jamais stable, notre vie. Tu sais... tu arrives dans la grosse, dans une grosse période, toi, puis il faut que tu travailles. Prends les gens qui font des impôts, les comptables qui sont dans la période d'impôts. Quand tu arrives dans la période d'impôts, là, ils sont en déséquilibre parce qu'ils passent 20 heures par jour à faire des rapports d'impôts au bureau. Fait qu'ils sont plus à la maison en train de donner du temps aux enfants. Ils arrivent à la maison, ils sont brûlés, ils veulent pas faire l'amour. Tu sais, il y a un déséquilibre des pointes de tarte. Puis là, l'impôt est terminé, là, t'as plein de temps, mais elle est rendue avec une autre priorité. Fait qu'elle, ses pointes de tarte ont changé. Fait que nos pointes de tarte changent tout le temps. Trouver un équilibre là-dedans, c'est impossible. Il faut comprendre qu'on vit constamment nos vies et nos couples dans le déséquilibre.
Il faut apprendre à vivre dans le déséquilibre.
Apprendre à trouver l'harmonie dans ce déséquilibre-là. Mm-hmm. On est-tu bien dans ce déséquilibre-là? On s'est-tu donné un mode de vie? On s'est-tu trouvé un troisième jeu, comme je disais tout à l'heure, le troisième jeu de selon les périodes de l'année, selon les stress, selon la job, selon nos occupations? On est-tu capable de se trouver une harmonie là-dedans? Puis de dire, nous, là, on vit bien avec cette harmonie-là. On est bien dans cette harmonie-là. Mon chum, une fois par année, là, écoute, il n'y a rien à faire avec lui. Là, il est assis à son bureau puis il calcule des chiffres parce que c'est sa période d'impôt. Invite-nous pas à souper, ça ne marchera pas, on n'ira pas. Il travaille. Fait qu'il faut comprendre ce déséquilibre-là. Il faut comprendre qu'il ne pourra jamais être en équilibre, mais se trouver une harmonie. Une
j'adore,
harmonie dans ce déséquilibre.
Il nous reste trois points à aborder. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Puis je veux qu'on se réserve du temps pour ce qui est de l'activité qu'on va faire ensemble. Là, ouais. Je vois que tu décides d'aller faire un tour en Europe aussi. Ouais. Fait qu'on va en jaser. Mais je te laisse le choix de choisir entre les trois points suivants. Être désolé de demander pardon. Il faut qu'on se parle ou encore le bonbon des hommes.
On va y aller avec le bonbon.
Le bonbon des hommes.
On y va avec le bonbon. Okay.
Allons-y.
C'est la conclusion de ma conférence Homme 101.
OK.
Les filles, comprenez ceci.
Quoi?
Le gars qui est dans un bar à l'autre bout du bar puis qui vous voit à l'autre bout du bar puis qui a le courage de se lever pour aller vous voir puis de vous dire que vous êtes cute puis d'entamer la discussion avec vous, ultimement, de façon primaire, primate, il veut être dans vos bobettes. On est fait comme ça. Ultimement, là, si on va y dire qu'elle est cute, c'est parce qu'à un moment donné, on veut se retrouver dans ses bobettes.
C'est raide en sacrament, ce que tu dis.
OK, mais c'est pour ça que je veux pas que tu viennes à la conférence, parce que ta blonde, elle va te regarder, puis elle va te dire si tu es vrai, puis tu vas dire, ouais, c'est un peu raide.
Ouais, mais c'est raide, mais c'est vrai.
Ah bon, ultimement, c'est pas mal ça. Est-ce que ça va toujours être aussi... j'allais dire sauvage, pas sauvage, mais direct que ça, non, parce que tu veux jaser avec la personne et tout. Donc, si vous savez que c'est ça qu'on veut, c'est ça le bonbon. Le bonbon, là, c'est ce qui se trouve dans une petite culotte. Si vous savez ça, pourquoi vous nous le donnez si rapidement? OK, si vous êtes dans une période où vous sortez d'un divorce après 20 ans, une relation après 20 ans, puis là, vous vous dites, OK, j'ai été 20 ans avec elle-même, là, je vais avoir une petite période où je vais me faire du fun, c'est pas la même affaire. Mais si vous cherchez à établir une nouvelle relation, donnez-y pas le bonbon tout de suite. La preuve, c'est que, vois-tu, quand je faisais cette conférence-là, je faisais toujours un sondage avec les participantes. J'ai cumulé, là, celles qui avaient du sexe, ou ils faisaient pas de l'amour, ils faisaient du sexe avec le gars le premier soir, ou le deuxième soir, ça cumulait 72 %. 72 % des femmes, après une rencontre ou deux, baissent leur culotte, ouais. Disent « OK, voici ton bonbon, mon grand. Je sais que c'est ça que tu veux, là, mais t'as le donné. » Ça a-tu marché, ça, à date? Là, il y a des femmes qui vont me dire, par rapport au défi 30 jours que je donne en parlant du bonbon, « Ouais, mais je suis au sommet de savoir assez vite s'il est bon au lit ou pas. »
Okay, les femmes vont dire ça, les gars vont dire « Crif Jean, pourquoi tu parles de ça 30 jours? »
Exactement! Exactement, c'est pour ça que je veux pas que les gars viennent à la conférence. Ouais. Fait que là, je dis aux filles, vous rencontrez quelqu'un, première rencontre, trippant, puis vous décidez de vous revoir. Il y a 5 questions à poser au gars. Dans les 30 jours d'abstinence. Je vous dis pas de pas vous rendre au deuxième but, là, mais revenez pas à la plate. Au deuxième but, tu peux te coller à un moment donné ou au fil du 30 jours, puis peut-être te bécoter un petit peu, mais gardez vos culottes attachées, un et l'autre, et posez 5 questions pendant ce 30 jours-là pour mieux connaître cette personne-là. Puis rendu au bout, quand si vous êtes satisfait des réponses, là, donnez-y le bonbon. Donnez-y une Christie de go.
30 jours.
Puis si c'est bon... Continuez. Vous avez 5 bonnes réponses aux 5 questions. Le sexe a été extraordinaire. Continuez. Si vous avez 5 bonnes questions, 5 bonnes réponses aux 5 questions, mais que le sexe n'est pas bon, arrêtez, ça ne reviendra jamais.
Dans quelques semaines, toi et moi, on fait une activité ensemble?
Oui, on s'en va à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Yannick Marceau chez les moines.
Ça s'appelle une retraite silencieuse.
Oui, bien, semi-silencieuse. Silencieuse dans ce sens que l'endroit où on s'en va, les 1, 2 et 3 décembre prochains, c'est l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Quand tu rentres là, là, mais Annick, là, dis-toi là tout de suite, parce que ça va être ça, là. Tu passes la porte, c'est terminé.
Pas de cellulaire, rien.
Pas de cellulaire. Tu ne parles plus, tu ne communiques plus d'aucune façon que ce soit, sauf dans les ateliers, parce que, bon, c'est une retraite qui commence le vendredi midi puis qui se finit le dimanche midi. Il y a 9 ateliers, donc moi et Régis Lachance, on anime ces ateliers. Donc, nous, on parle, vous écoutez, il y a des exercices qui vont vous amener à parler pendant les ateliers. Mm-hmm. Mais quand tu sors d'atelier puis tu te retrouves dans l'abbaye, on est dans l'abbaye, c'est silence total. Donc, la retraite comme telle est une double expérience. Un, d'aller passer 48 heures dans une abbaye. T'as-tu déjà pensé faire ça, toi, dans ta vie?
Jamais.
À côtoyer les moines, à manger en silence. Tout est en silence. Je te le dis, là, tout est en silence. Puis après ça, à vivre 9 ateliers d'intériorisation, de réflexion sur toi. Qui es-tu? Vers où tu t'en vas? Que fais-tu? Vers où tu t'en vas? Tu passes au vestiaire au début, c'est le premier atelier. Passer au vestiaire, tu te dévêtis. Là, je ne peux pas trop en dire, mais tu te dégages de toutes tes armures qui te protègent. Puis tu fais les ateliers, puis à la fin, tu repasses au vestiaire, tu dis « OK, je remets tout ça, moi, ces armures-là, ou je continue d'une autre façon? »
J'aime ça.
Donc,
j'aime
c'est ça. C'est une retraite qui est de développement personnel, 9 ateliers, des exercices percutants. Le samedi soir, l'exercice qu'on vous donne, ma blonde me disait ça parce qu'elle l'a fait la dernière, au mois de mai dernier, puis elle me dit « Jean, l'exercice que vous nous donnez à faire le samedi soir, là, jamais personne n'a pensé dans sa vie qu'il ferait cet exercice-là, ce devoir-là. » Puis vous nous le faites faire.
Non, je le vois comme une expérience positive.
Tu te lances là-dedans l'aveuglette, hein,
exact.
C'est ce que tu me disais.
Puis j'ai très hâte. Le pire, c'est que c'est vraiment pas mon genre de faire ça, mais je me suis dit, il faut que je me lance dans le vide puis que je l'essaye. Peut-être que ça va développer sur d'autres choses. En fait, j'ai l'impression que ça va développer sur d'autres choses. Comment je fais pour te rejoindre si ça m'intéresse?
En fait, on s'est ouvert un compte téléphonique, un numéro de téléphone. Vous me textez là. Puis je vais vous donner toute l'information. Ça va être le même téléphone pour le virement parce qu'il y a un frais à tout ça. Et là, il nous reste une seule place pour les femmes. Une seule place pour les femmes, une seule place pour les hommes. Après ça, on est complet. Le groupe est complet, sold out, comme l'ont été les 4 premières éditions. 418-806-2729. Vous m'appelez ou vous appelez, puis c'est votre soin, moi ou Régis qui va répondre, ou idéalement, envoyez-nous un texto pour qu'on vous envoie les informations. Puis après ça, vous prendrez votre décision.
Cool!
Joignez-vous à Yannick chez les moines.
Exact. Puis vous allez le faire en France aussi?
Oui, on s'en va le 12, 13, 14 avril prochain. On exporte notre retraite dans une abbaye là-bas, tout près de Lyon.
Ah, c'est très
cool. On a déjà plusieurs inscriptions.
Jean Nadeau, c'est toujours un plaisir. Pour avoir accès à tes livres, on peut faire ça comment?
Même chose, écrivez à ce texto-là, 418-806-2729. On prend entente ensemble. Vous me donnez votre adresse et je vous envoie ça dédicacé.
Un gros merci, Jean.
Merci, Yannick.
Salut, bye-bye.
Marceau, le soir.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis, Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, 2 adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
102.1 Boulevard, fier de vous présenter le nouveau rock. Royal Blood, Pull Me True. Consultez notre sélection musicale et votez pour les nouveautés et les radars au blvd.fm ou sur l'application mobile.
Du 8 au 10 septembre, faites le plein de culture au Festifilm de la Beauce. Venez rencontrer plus d'une vingtaine d'artisans du milieu du cinéma québécois, assister aux prestations musicales de Valence et des Lunatiques, voyez Cœur de Slush, présenté par l'acteur Joseph Deloré, et assister aux projections d'une 60aine de films. Courts et longs métrages, documentaires ou fictions, il y en a pour tous les goûts. Pour des festivités qui célèbre le cinéma d'ici, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. On se donne rendez-vous au Festifilm de la Beauce à Saint-Séverin.
Le Collège François de Laval, c'est LE milieu de vie pour s'épanouir. Visitez-nous lors de nos journées portes ouvertes les 16 septembre et 17 septembre prochains. Au CFDL, vos jeunes peuvent choisir parmi une foule d'options stimulantes dès le premier cycle du secondaire afin de développer leur passion. Nouvelle option Athlète Plus, sciences et robotique, arts, en plus d'un programme enrichi en anglais. Réservez votre place aux portes ouvertes du 16 ou du 17 septembre. Au collège FDL.ca. Au collège François de Laval, deviens qui tu veux, rien de moins.
Le sentez-vous? Ça sent la performance, ça sent le raffinement, ça sent le plaisir de conduire, ça sent le Rogue flambant neuf de Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan. Montez derrière le volant d'un Rogue SV à traction intégrale et sentez la bonne affaire. En location 64 mois à seulement $470 par mois avec léger comptant. Et vu qu'on sent que vous êtes dû pour changer, on rachète votre véhicule au meilleur prix, peu importe la marque. Détails pendant l'événement Mission Sensation chez Saint-Nicolas-Nissan, Montmagny-Nissan et Paquette-Nissan.
La clinique dentaire Hélène Bouchard à Saint-Agapy offre des services dentaires de pointe depuis plus de 30 ans. Nous sommes à la recherche d'une secrétaire dentaire organisée et dynamique qui contribuera à l'expérience positive des clients. Formation payée, salaire concurrentiel et plein d'autres avantages, en plus de te sauver du trafic le matin. Gagne du temps et améliore ta qualité de vie. Postule au carrière.fm. La clinique dentaire Hélène Bouchard, le milieu de travail pour toi.
Wassim Aboutanos, Québécois d'origine libanaise, entrepreneur et auteur-compositeur-interprète. Travailler en français, c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, je combine mon boulot et ma passion et je poursuis mes rêves artistiques dans une langue qui me permet de créer, de vibrer et de grandir. Créer et travailler en français, c'est un plaisir que l'on vit ensemble au quotidien. Un message d'Impératif français.
Marceau Soir, présenté par Voyage Aquaterra Lévis Québec. Visitez la nouvelle agence de Québec. Maintenant, deux adresses pour vous servir. Boulevard Bastien à Québec et avenue Taniata à Lévis.
Mark Zuckerberg trippe tellement sur les arts martiaux mixtes qu'il a essayé de faire une jambette à Boulevard sur Facebook et Instagram. Vous ne trouvez plus sur ces plateformes? Pas de trouble. Pour rester informé sur ce qui se passe à Boulevard, l'app Boulevard 102.1, l'infolettre, TikTok, YouTube, X, c'est l'affaire qui s'appelait Twitter, et le BLVD.fr. Boulevard 102.1. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Alors voilà, c'est ce qui conclut l'émission en ce vendredi, en espérant que vous ayez apprécié l'émission avec Jean Nadeau. J'imagine que oui, à chaque fois, il y a un très gros impact. Donc, il sera des nôtres dans les prochaines semaines. C'est à ne pas manquer. Je vous souhaite de passer un super de beau week-end. On se rejoint lundi prochain à 11h pour ce qui est le Marceau le midi et à 18h pour ce qui est le Marceau le soir. Merci d'avoir été là. Bye bye.
Marceau le soir.
Envie d'impressionner vos invités? Pensez au Louis Cyr 2 ans. Délicieux gouda vieilli de la fromagerie Bergeron. Sans lactose, aux notes de caramel brûlé et de noisette, il est maintenant disponible en pointe de 170 grammes chez Métro. Les fromages Bergeron, des fromages de caractère.
Pneus illimités, c'est une sélection de pneus inégalée, des outils d'achat utiles et des conseils spécialisés. Rendez-vous le 13 septembre à Mécanique Multitech et le 14 septembre au Centre technique Gaétan et Marc Leroux. Prix de présence et pneus gonflables sur place. Hankook, partenaire de pneus illimités.
C'est la rentrée avec TELUS. Et cette année, ajoutez des rabais à votre emploi du temps pour alléger votre budget. Avec cette offre exceptionnelle de TELUS, profitez d'un forfait mobile exclusif pour les étudiants. Obtenez 20 gigaoctets de données à seulement $45 par mois en apportant votre propre appareil. De quoi commencer la rentrée sur une bonne note. Pour en profiter, passez très vite dans une boutique TELUS ou visitez telus.com/rabais-étudiants. Bonne rentrée avec TELUS. Des conditions s'appliquent pour une durée limitée.
Dernière chance pour profiter de l'offre pour la rentrée. Obtenez l'examen de la vue gratuit et la monture gratuite, même sur les grandes marques. Une offre imbattable. Promotion valide du 8 au 10 septembre à Beauport, Sainte-Foy et Fleur-de-Lys. Réservez maintenant lavue.ca. Détails sur place jusqu'à concurrence de $250 sur modèle sélectionné. Véronique Michaud, opticienne.
Boulevard. 102.1.
Le Collège François de Laval, c'est LE milieu de vie pour s'épanouir. Visitez-nous lors de nos journées portes ouvertes les 16 septembre et 17 septembre prochains. Au CFDL, vos jeunes peuvent choisir parmi une foule d'options stimulantes dès le premier cycle du secondaire afin de développer leur passion. Nouvelle option Athlète Plus, sciences et robotique, art, en plus d'un programme enrichi en anglais. Réservez votre place aux portes ouvertes du 16 ou du 17 septembre au collègefdl.ca. Au Collège François de Laval, deviens qui tu veux, rien de moins.
Pourquoi te contenter de mini-cèdres rabougris qui prennent 10 ans à pousser quand tu peux avoir bien mieux? Choisis Beau Cèdre, de beaux grands cèdres fournis à souhait d'une incroyable qualité garantie 5 ans. Et Beau Cèdre installe tout pendant que toi, ben, tu relaxes sur le patio. Beau Cèdre en un mot.com.
En participant à une étude clinique chez Cineos, vous contribuez à la médecine de demain.
Soyez fiers de faire partie de notre communauté de participants. La recherche à Cineos Québec, c'est plus de 25 ans d'expérience et plus de 2500 sujets ayant participé à un projet sur les trois dernières années. Votre contribution est importante. Faites le premier pas et n'hésitez pas à nous rejoindre au 1-866-262-7427. Plusieurs projets disponibles.
Cineos Health. Pour un futur en santé.
Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là.
Notre ADN du rock.
On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que c'est le meilleur au monde.
J'adore 102!
Il
n'y
a rien de mieux que 102-1 et son équipe de fou.
102-1.
Parce que c'est la meilleure radio au monde!
Boulevard 102-1. Boulevard 102-1. Bienvenue chez vous. C'est l'heure d'aller coucher les enfants.
Coucher les enfants.
Le bonhomme débarque avec sa musique du diable.
This is the Prince of Darkness.
Voici le bonhomme 7 heures, Matt Marcotte.
Bon vendredi, c'est le bonhomme 7 heures, Mathieu Marcotte, qui s'installe avec vous pour vous présenter les 7 plus grosses tunes de la semaine et vous offrir du solide matériel. Il y a des grosses tunes qui s'en viennent dans les prochaines minutes. On aura droit en 5e place Nickelback, qui sera là avec Those Days. On a également Pop Evil, qui est là, qui, je pense, fait son entrée dans le top 7 de Boulevard 102 avec Skeletons. Et en 7e position, on part ça instantanément avec un gars dont le nom est Aaron Jones, Blood in the Water. Vous nous avez dit que vous aimiez ça. Ben, du moins, vous nous l'avez dit via le blvd.fm et via l'application Boulevard en mettant des pouces en l'air sur cette chanson-là. On passe avec Blood in the Water. Bon vendredi!
Le 7 de 7, nos 7 plus grosses tounes de l'antenne. Numéro 7.
Didn't cry on the day she died. She couldn't stand the tears, but I could feel the cold wind blow like a ghost inside the mirror. I couldn't pray on the day he died for a man I never knew. I washed these sins on down the river. Say a prayer for my mother, a quiet tear for my father, and nothing gonna save me. There's blood in the water. I pray for forgiveness. Let the Lord be my witness. Ain't nothing gonna save me. There's blood in the water. We'll be right back.
1727.
Boulevard 102-1.
Numéro 6.
I drive a